Voilà, mes amis, alors tout d'abord un très 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 grand merci à Eric et Karine Chibango pour ce rendez-vous régulier maintenant avec nos grands grands amis et mes frères africains. Et grâce à Dieu, on l'a commencé déjà plusieurs fois et on va continuer et au moins une fois par mois et peut-être plus encore, on se réunit. Et on traitera à chaque fois d'un sujet, un sujet différent qui concerne pas forcément tout ce que je vais dire, mais en tous les cas que le point le plus important de mon intervention concerne effectivement les peuples africains comme on le verra aujourd'hui. Le sujet qui a été demandé aujourd'hui, est-ce que les Africains doivent adhérer à la Torah comme le peuple juif ou bien comme les Bnei Adam? C'est-à-dire, si j'ai bien compris la question, est-ce qu'on demanderait aux Africains de devenir complètement juifs ou bien ils auront leur version de la Torah selon, on pourrait dire, la dimension Bnei Adam? Alors bien évidemment, je vais commencer par une réponse évidente, puisqu'on vient de discuter maintenant avec Malachi, qui s'est converti il y a une semaine. Et vous étiez d'où au départ de... Non, son micro est fermé.
Alors
Oui.
que j'ai ouvert mon micro,
Oui.
oui.
Vous étiez où? De quel endroit vous étiez?
De quel endroit? Je suis de Côte d'Ivoire.
Ah, de Côte d'Ivoire, c'est ça. Donc évidemment que de tous les pays du monde, que ce soit les Asiatiques, que ce soit même des musulmans, c'est plus rare, mais il y a même des musulmans qui se convertissent, que ce soit des Africains, que ce soit des Blancs, etc. Et c'est évident qu'à titre individuel, la conversion est tout à fait possible. Maintenant, à titre collectif, comme je vais expliquer, non. Comme je l'ai souvent expliqué, mais ça ne va rien, on pourrait dire, ça ne va en rien diminuer tout ce qu'on va expliquer, mais l'une des preuves, c'est difficile à accepter, mais l'une des preuves que la Torah est vraie, c'est la seule spiritualité au monde qui est contre le prosélytisme. Et pourquoi la Torah est contre le prosélytisme? Justement parce qu'elle respecte les autres tels qu'ils sont. On pourrait dire la grande faute de pratiquement toutes les religions, c'est qu'elles veulent s'imposer et obliger à tout le monde d'être comme elles. Et les chrétiens qui au départ étaient des blancs sont partis en Afrique et de force ou de gré ont converti des millions d'Africains qui n'avaient rien à voir avec le christianisme. Et pareil pour l'islam, partout où ils vont, 90% des Indonésiens sont aujourd'hui des musulmans et une très grande partie d'entre eux sont des Asiatiques. Quel est le lien entre un Asiatique et un musulman? C'est des mentalités, des caractères qui sont tellement, tellement différents. Pourquoi? Parce que la majorité des religions sont prosélytes. Elles s'imaginent que tout le monde doit être comme eux. La Torah a toujours interdit, et je vais le prouver et l'expliquer, la Torah a toujours interdit au niveau des peuples et des nations, pas au niveau des individus évidemment. Si Malachi s'est converti il y a une semaine, comme je le dis toujours, c'est clair qu'il le sache ou non, mais parce qu'il avait une étincelle juive en lui. Sans doute qu'au niveau de ses ancêtres, il y a un juif qui est arrivé là-bas, beaucoup de juifs, comme les Danites, qui sont très, très connus en Afrique, et peut-être qu'un Danite a épousé une Africaine. Les enfants n'étaient plus juifs puisque la judaïté passe par la mer, mais l'étincelle est toujours là et peut-être 200 ou 300 ans après, tout d'un coup, Malachi, sent cette étincelle briller en lui et il se convertit. En vérité, ce n'est pas une conversion, c'est ce que moi j'appelle un retour à la maison. Cette étincelle qui avait quitté sa véritable place revient et doit vivre là où elle est. Ce qui veut dire que même une conversion, c'est pas du prosélytisme. Une conversion, c'est tout simplement une étincelle juive perdue qui revient à la maison. Mais en ce qui concerne véritablement les nations, la Torah n'est pas prosélyte, comme j'ai encore expliqué, je suis toujours dans l'introduction, parce que justement, la Torah respecte chaque peuple, chaque nation comme elle est. Et parce que si Dieu a créé des peuples et des nations différentes, s'il a créé aussi des couleurs différentes, et voire même des religions différentes, c'est bien pour nous faire comprendre que le maître du monde veut l'unité entre toutes les différences, mais certainement pas l'uniformité. L'uniformité est le pire est le pire des mensonges qui existent sur Terre, et malheureusement, c'est un mensonge tellement répandu au niveau des religions qui veulent s'imposer à tout le monde. La Torah veut l'unité, mais pas l'uniformité. C'est-à-dire que chaque peuple, chaque nation doit, avec son caractère, avec son tempérament, avec le lieu, l'endroit où cette nation se trouve, arriver au vrai Dieu, mais par son propre chemin, qui ne sera pas forcément le même que le chemin que va emprunter un autre peuple habitant à un autre endroit. Le but final est de ramener toute l'humanité au même vrai Dieu unique, mais les chemins sont différents. Comme vous le savez, selon notre tradition, il y a, mais aujourd'hui c'est une notion qui n'est plus du tout visible, mais qui va être retrouvée et reconstruite avec le Mashiach, avec le Messie, il y a fondamentalement 70 peuples, 70 nations. Aujourd'hui, à l'ONU, il y en a beaucoup plus. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on a fait une différence, je ne sais pas moi, entre les Coréens, les Thaïlandais et les Japonais. Je dis ça comme ça, ne me prenez pas la lettre. Mais peut-être qu'un jour, on s'apercevra que c'est une même nation au départ qui s'est divisée et a formé d'autres peuples. Mais le Mashiach, son but, ça sera de reconstruire, de retrouver les 70 nations. Alors pourquoi 70 nations? Et après, on parlera bien sûr des Africains. Comme vous le savez, le monde a été créé en 7 jours. Je parle bien sûr d'après les codes et la manière dont la Torah parle. C'est pas apprendre à la lettre. Ce que je cherche, moi, à vous faire comprendre, c'est les messages qui se cachent derrière tous ces codes bibliques. Le monde a été créé en 7 jours. Pourquoi 7 jours? Nos maîtres expliquent que les 7 jours font allusion aux 7 qualités fondamentales qu'on appelle en hébreu les 7 sphirot. En vérité, il y a 10 sphirot, les 10 attributs divins. Mais Dieu a pris les 7 forces, les 7 qualités des 7 attributs divins qui sont après les 3 premiers qui sont tout en haut. Dit d'une manière très 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 rapide, les 3 premiers attributs divins sont des forces qui sont au-dessus de ce monde. Donc elles ne pouvaient pas participer à la création de ce monde. Mais les 7 forces qui viennent après, qui correspondent aux 7 jours de la semaine, sont 7 forces qui peuvent, oui, s'incarner, se dévoiler et s'habiller à l'intérieur de ce monde matériel. Et pourquoi 7 jours? Comme je viens de l'expliquer, ça fait allusion à 7 qualités fondamentales, qui sont les qualités fondamentales qui devraient, et qui, malheureusement, ce n'est pas le cas jusqu'à la délivrance finale, mais qui se retrouveront et se dévoileront au moment de la délivrance finale. Ce sont 7 qualités différentes que je vais traduire en française. Je vais énormément escamoter le véritable sens du mot en hébreu. Comme j'ai souvent expliqué dans mes cours, dès qu'on traduit la langue biblique, on la réduit énormément, mais c'est pas grave. Je vais quand même le traduire en français. La première qualité qui correspond au premier jour, c'est la qualité en hébreu du chesed, qu'on peut traduire par la bonté, par la charité, par, on pourrait dire, la volonté d'aider les autres. C'est la première qualité. La deuxième qualité s'appelle en hébreu la gvura, qui fait allusion à la justice, à la rigueur, qui est à l'extrême opposé de la bonté, parce que quand tu es un homme entièrement bon, tu es prêt à pardonner, tu es prêt à effacer, tu es prêt à toujours aller à la rencontre de l'autre, même s'il ne s'est pas bien comporté à ton égard. Par contre, la justice est tout le contraire. Tu as fait ça, on tient compte de ce que tu as fait, et tu dois rendre des comptes de ce que tu as fait. Donc ça correspond à la qualité du deuxième jour. La qualité du troisième jour correspond à la qualité qu'on appelle la vérité. Emet en hébreu, la vérité, mais quand je traduis le mot vérité en français, ça ne veut plus vraiment dire ce que le mot signifie en hébreu. La définition de la vérité en hébreu, je parle en hébreu biblique, c'est l'union entre les contraires. Ça veut dire savoir, avoir la sagesse de savoir quand je dois être bon et quand je dois être rigoureux. Parce qu'on ne peut pas être bon dans toutes les situations, on ne peut pas être bon avec tous les hommes, mais on ne peut pas non plus être rigoureux dans toutes les situations et être rigoureux avec tous les hommes. Donc un homme vrai, un homme authentique, c'est quelqu'un qui est capable de savoir à quel moment et quelle mesure et de quelle manière utiliser dans la situation précise devant laquelle il se trouve ou la qualité de la bonté ou la qualité de la rigueur qui sont deux qualités contraires. Après, on arrive au quatrième jour et la qualité qui correspond en hébreu s'appelle Netzar et qui veut dire, je traduirai par la victoire. Ça veut dire c'est une qualité. On nous demande de ne jamais être des perdants, de ne jamais être des gens qui renoncent, de ne jamais être des gens pessimistes, des gens désespérés. Tu es face à une difficulté, tu es face à un obstacle, défonce-le, gagne, sois optimiste, ne baisse pas les bras. Prenons un exemple parmi des milliards d'autres dans le couple. Comme vous le savez, aujourd'hui, on divorce avant même de se marier. Je plaisante, mais c'est presque vrai. Pourquoi ? Parce que c'est dur un couple. C'est très très dur un couple. Il y a des tensions, il y a des conflits. C'est pas toujours l'amour et la lune de miel. Il y a des difficultés. Malheureusement, dans notre génération, on divorce avant de se marier. Pourquoi ? Parce que on n'a plus envie de se battre. Allez, va te faire voir, j'en prends une autre, j'en prends un autre. Et on n'a plus envie de se battre. Netzar, c'est la qualité qui fait de moi un homme qui va jusqu'au bout. Je t'ai choisi, tu es mon épouse. Même si ça, c'est dur entre nous, je ne parle pas dans un cas, qu'à Dieu ne plaise, d'infidélité, où là c'est différent, là c'est sûr qu'il faut se séparer. Mais si vraiment on sait qu'il y a des exagérations qui sont inconcevables. Moi, je parle des tensions dans le couple. Même des fois des disputes, des gros mots, des pas de faire voir, etc. C'est toi que j'ai choisi. J'irai jusqu'au bout avec toi. Même si c'est dur, même si c'est difficile, même s'il faut qu'on se batte, mais je ne reviens pas en arrière. C'est toi, mon âme sœur, on va ensemble jusqu'au bout. Qui a cette qualité-là aujourd'hui? On peut les compter sur les deux doigts de la main. J'exagère. Mais presque. Ça, c'est la quatrième qualité qui correspond au quatrième jour. La cinquième qualité s'appelle en hébreu « od », qui veut dire en français « la reconnaissance ». Être un homme reconnaissant. D'abord, être reconnaissant à l'égard de Dieu, pour tous les bienfaits qu'il nous donne. Bien sûr, ça demande qu'on soit croyant. Mais pas seulement à l'égard de Dieu, à l'égard de la vie, à l'égard de tout ce qu'on a et ce qu'on reçoit. Malheureusement, la majorité des hommes ne regardent que ce qui leur manque, ne regardent que leurs problèmes et sont incapables de se focaliser sur le bien qu'ils ont et se dire « j'ai une femme, j'ai des enfants, je gagne ma vie ». Et ça aussi, c'est des cadeaux incroyables que j'ai reçus. Je pourrais crever de faim, je pourrais être seul, je pourrais être dans une situation catastrophique, comme c'est le cas de tellement de millions d'hommes et de femmes dans le monde qui sont dans des pays où il y a une dictature, comme en Corée du Nord, qu'on n'imagine même pas la souffrance des citoyens là-bas. Ou dans le passé, la majorité des hommes souffraient parce qu'on vivait sous des régimes dictatoriaux comme les rois ou peu importe les dictateurs comme Staline ou d'autres. Donc le simple fait, malgré tout, d'avoir une vie où je sens que je ne suis pas oppressé, c'est déjà un cadeau énorme. Donc avoir la capacité d'être reconnaissant, ne pas voir uniquement ce qui me manque et ce qui va mal, voir aussi ce qui va bien. Ça, c'est la cinquième qualité par rapport au cinquième jour. Et la sixième qualité s'appelle Yesod, la stabilité. On nous demande, c'est aussi une qualité importante, d'être quelqu'un de stable. Je ne fais pas aujourd'hui, je dis je crois en Dieu, demain je ne crois pas en Dieu. Je ne fais pas dire aujourd'hui j'aime ma femme, demain j'aime ma maîtresse. Et aujourd'hui je suis juif, demain je serai catholique. Non, il faut être stable. Stable, ça veut dire tu as fait un choix dans la vie et tu vas jusqu'au bout. Ça ressemble d'ailleurs énormément à la qualité de Netzar qui est la victoire. Tu ne renonces pas. Et enfin, la dernière qualité qui, comme on le verra dans la deuxième partie du cours, concerne autant les Africains que les Juifs, c'est la malchoute, la royauté. Ça veut dire un homme qui se bat pour le dévoilement de la royauté d'Hachem dans ce monde. Donc voilà sept qualités. Ces sept qualités, disent nos maîtres, correspondent aux 70 peuples. Tiens, comment qu'on passe de 7 à 70? J'explique. Parce que chaque qualité, mais ça je ne peux pas rentrer dans les détails avec vous maintenant, mais simplement je le dis, chaque qualité a 10 niveaux. Ça veut dire, donnons un exemple simple. Tu es un homme de bonté, mais il y a différentes manières de faire, d'être bon. Tu peux être bon si tu as les moyens, tu donnes de l'argent à quelqu'un qui a faim. Tu peux être bon, tu peux donner des conseils à des gens qui sont perdus dans la vie. Tu ne leur donnes pas d'argent, mais tu leur donnes des conseils qui vont les aider à s'en sortir. Tu peux être bon en diffusant des enseignements de vérité et tu ne demandes pas d'argent en contrepartie. Tu le fais parce que tu sais que c'est ta mission de diffuser la vérité dans le monde. Donc, il y a énormément de manières d'être bon, comme il y a énormément de manières d'être rigoureux, ou il y a énormément de manières d'être un homme victorieux. Donc, nos maîtres, mais ça je ne rentrerai pas dans les détails, considèrent que chaque qualité se divise en 10 catégories. Et de là, on arrive aux 70 peuples. Ça veut dire qu'en vérité, il y a 7 qualités qui se divisent en 10. Ça veut dire qu'il y a, et ça va se retrouver au moment de la délivrance finale, il y a 10 peuples qui ont chacun leur manière spécifique d'exercer la bonté. Il y a 10 peuples qui ont chacun leur manière spécifique d'exercer la justice et la rigueur. 10 peuples qui expriment la vérité, 10 peuples qui expriment la victoire, 10 peuples qui expriment la reconnaissance vis-à-vis de Dieu et de tous ceux qui nous font du bien, c'est leur qualité principale, 10 peuples qui vont exprimer la qualité de la stabilité et 10 peuples qui vont exprimer la qualité de la royauté d'Hachem. Alors, attention, vous voyez qu'à chaque fois, 7 jours dans la semaine, sept qualités différentes qui chacune se divisent en 10. Mais quel est le sens de l'unité? Ça veut dire qu'en vérité, les 70 nations regroupées en 7 fois 10 auront, au moment de la délivrance finale, chacune leur qualité spécifique par rapport à laquelle ils vont être un modèle pour les autres. Mais, bien sûr, qu'en vérité, dans chacune de ces sept catégories, qui en deviennent 70, il y a l'unité. Ça veut dire que quelqu'un qui est rigoureux, les peuples rigoureux, donner un exemple, j'imagine que les peuples russes d'Europe de l'Est sont plutôt la rigueur, mais c'est évident que eux aussi, au moment de la délivrance, vont adopter aussi le principe de la bonté. Pareil, ceux qui sont dans la bonté prendront aussi le principe de la rigueur, mais chacune des 70 nations aura malgré tout sa qualité qui sera son drapeau, son modèle par rapport aux autres. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en vérité, il est absolument inconcevable que les peuples se mélangent au point de fusionner et de perdre leur identité, parce que justement, le maître du monde a créé un monde diversifié dans le but d'atteindre une unité qui réunit toutes les qualités qui restent différentes, mais qui s'unissent et qui forment en vérité, d'une certaine manière, l'ensemble de toutes les qualités dont l'humanité a besoin pour pouvoir se construire. Donc, maintenant vous comprenez quelque chose d'extraordinaire que j'ai déjà cité dans les cours que j'ai fait avec vous. Nos maîtres nous disent que quand Dieu a donné la Torah à Israël, et ça, c'est un commentaire vieux de millénaires. Il ne l'a pas seulement proposé à Israël, il l'a proposé aux 70 nations. Ce qui veut dire qu'au départ, la Torah ne devait pas devenir uniquement la propriété d'Israël. La Torah avait 71, enfin, je préfère dire 70 facettes, et chaque peuple devait recevoir la facette de la Torah qui correspond à la qualité. Les peuples qui ont un tempérament plus bon devaient recevoir la facette de la Torah qui met surtout en évidence la bonté. Les peuples qui ont un caractère dur, rigoureux, devaient recevoir la facette de la Torah qui correspond plus à la justice et à la rigueur, et ainsi de suite. Et le but, si toute l'humanité avait reçu les 70 facettes de la Torah, le but était d'unir l'humanité à l'intérieur de la Torah avec ses 7 ou ses 70 facettes. Maintenant, comme on le sait, les peuples, c'est pas les peuples dans le sens des citoyens, mais les dirigeants des peuples à ce moment-là ont refusé la Torah, tout simplement parce qu'ils voulaient, eux, avoir la mainmise sur le monde et ils ne voulaient pas laisser Dieu, d'une certaine manière, être présent dans ce monde. Et surtout, à l'époque où la Torah a été donnée, tous les dirigeants du monde entier étaient tous de véritables dictateurs qui oppressaient d'abord et en premier lieu leur propre peuple, comme Pharaon en Égypte et comme partout dans le monde. Et malheureusement, aujourd'hui encore, ça n'a pas beaucoup changé. Il n'y a que la vitrine qui est différente, mais le magasin est resté le même. Et donc, les dirigeants ont refusé la Torah et les nations se sont retrouvées sans Torah. Mais comment Hachem a fait? Alors là, nos maîtres expliquent quelque chose d'extraordinaire. C'est que quand il a donné la partie de la Torah qui correspond à Israël, et ça c'est dans nos commentaires millénaires, il a caché à l'intérieur de la Torah d'Israël les 70 facettes qui correspondent aux 70 nations, en se disant qu'un jour viendra, et on est vraiment dans cette génération, mes frères, mes amis, mes élèves, on est dans cette génération, grâce à Internet, où un jour, la Torah pourra se diffuser dans le monde entier, et dans la mesure où sont cachées dans la Torah d'Israël les 70 facettes qui correspondent aux 70 nations, c'est ce qui permettra aux nations de se réveiller lorsqu'elles entendront la Torah. Aujourd'hui, ce sont des millions de non-juifs au départ qui commencent à comprendre que la Torah les concerne. Quand je dis des millions, je parle dans toutes les langues confondues. Vous savez que dimanche dernier, j'ai donné un cours avec l'Indonésie, mon premier cours avec l'Indonésie. Comment je suis arrivé à un cours avec l'Indonésie? Ben, c'est parce que un groupe d'Indonésiens ont abandonné leur religion d'origine, parce que ils ont un jour entendu un cours, bon, ils parlent pratiquement tous l'anglais là-bas. Ils ont entendu un cours d'un rave américain qui leur a beaucoup plu. Et après, ça a été un autre cours, un autre cours, un autre cours. Et puis, ils ont commencé à se réveiller et à comprendre que la Torah leur parlait. Et ils ont compris que la Torah, c'est pas uniquement la Torah des Juifs. La Torah, au départ, c'est la Torah de l'humanité toute entière. Les 70 facettes. Mais ils ont entendu un rave parler. Donc, apparemment, ce rave devait parler un langage juif. Non! Parce que justement, comme Dieu a caché dans la Torah les 70 facettes qui correspondent aux 70 nations, lorsqu'un enseignant enseigne la Torah et qu'il sait, parce qu'à partir du moment où il est sur Internet, il sait très bien qu'il va être aussi écouté peut-être par des milliers de non-juifs, automatiquement le maître du monde s'arrange pour que son langage contienne des parcelles de vérité qui concernent les nations. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a des millions de non-juifs partout dans le monde, jusqu'à en Indonésie, où j'avais mon premier cours il y a quelques jours avec les Indonésiens, et je vais en avoir un par mois, quelque chose d'absolument incroyable, que les Asiatiques, les Africains, les Blancs, les moins Blancs, peu importe, tout le monde aujourd'hui, il n'y a pas un endroit dans le monde. Je peux vous raconter une petite histoire, mais bon, je me gêne parce que ça fait un petit peu prétentieux, mais j'ai des élèves au Canada, qui vivent dans le nord du Canada, où pratiquement toute la population là-bas, ce sont des tribus indiennes, de vrais Indiens. Et un jour, il était devant son ordinateur, parce qu'il travaille, lui, avec les Indiens, bien que c'est un vrai Canadien, mais il travaille avec les Indiens. Un jour, il avait une petite pause pendant le travail, il était devant l'ordinateur, et il écoutait un de mes cours. Il y a des Indiens qui sont venus, et ils lui ont demandé en indien, ils lui ont demandé c'est quoi, explique-nous de quoi il parle, et il leur a dit de quoi je parle. Ça les a plu, et depuis, toutes les semaines, il donne un cours en indien à des dizaines d'indiens qui écoutent un des cours que j'ai donné cette semaine. Mais comment c'est possible? Quel est le lien entre la Torah et les indiens? Mais vous voyez bien que la Torah s'adresse au monde entier. Parce qu'elle contient les 70 facettes. Maintenant, on va parler de nous, de vous et de nous, puisque ça fait déjà maintenant plusieurs cours où j'ai expliqué le lien absolument incroyable qu'il y a entre le peuple juif et les Africains, les peuples noirs. J'ai expliqué vraiment déjà d'une manière très approfondie dans les précédents cours. J'ai expliqué que la couleur noire correspond à la couleur de la malchoute, la couleur de la royauté. Ce qui veut dire, mes amis, vous allez comprendre aujourd'hui avec un peu plus d'explications le lien entre le peuple juif et les peuples noirs. Parce qu'en vérité, nous appartenons au septième attribut qui est l'attribut de la royauté. C'est-à-dire que notre mission sur terre, à nous, peuple juif, et à vous, peuple africain, est de dévoiler la royauté d'Hachem sur terre. C'est notre mission, c'est notre qualité. Je ne dis pas qu'on ne doit pas s'intéresser à d'autres qualités, bien évidemment que oui, mais notre drapeau, c'est de dévoiler la royauté de Dieu sur terre. C'est pas seulement un créateur, c'est pas seulement un Dieu qui se kiffe là-haut dans le ciel. Son but final, c'est d'être avec nous sur terre et d'être notre dirigeant dans ce monde matériel. Dans ce monde. Il n'est pas seulement créateur, il est roi. Comme le verset le dit dans les prophètes, en ce jour, Dieu sera reconnu comme étant le roi de toute la terre. Tous les peuples reconnaîtront qu'il est roi. Mais le problème, mais qui sont les peuples qui ont reçu cette mission de dévoiler la royauté d'Hachem, eh bien, ce sont les peuples africains et le peuple juif. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi nous sommes pratiquement les seuls peuples qui n'ont cessé d'être piétinés, d'être opprimés pratiquement pendant pratiquement toute notre histoire. Pourquoi? Mais parce que nous reflétons dans ce monde exactement ce qui se passe au niveau de notre mission. Dans la mesure où la royauté de Dieu est complètement piétinée dans ce monde, elle est complètement déchirée, refusée, anéantie, parce que c'est évident que personne ne voit que c'est Dieu qui dirige le monde, personne ne voit et personne ne comprend que sa volonté est de se dévoiler dans ce monde et pas dans le ciel uniquement, comme toutes les religions opium qui nous font croire que dans le monde à venir on va kiffer, mais dans ce monde c'est le monde du Satan. Non, c'est faux. La Torah nous explique que toute la volonté d'Hachem, c'est se dévoiler dans ce monde. Mais comme la royauté d'Hachem est complètement piétinée par les hommes, surtout par tous les dictateurs et tous les dirigeants qui se foutent royalement de la présence de Dieu dans ce monde, ça veut dire reste dans l'église ou reste dans la synagogue, mais surtout ne viens pas au Parlement. Ah non, tu vas pas rentrer au Parlement. On t'a créé une église, reste dans l'église. On t'a créé une synagogue, reste à la synagogue. Mais puis tu vas pas nous saouler au Parlement. Non, c'est impossible. Ça veut dire là où les dirigeants dirigent le monde. Non, là-bas, on ne veut pas de toi. Donc, comme la royauté d'Hachem est piétinée, elle s'est complètement effondrée pendant toute l'histoire. C'est la raison pour laquelle les deux peuples qui sont censés représenter cette royauté sont eux aussi complètement piétinés. Qu'est-ce qu'il est beau, ce petit garçon, comment il s'appelle? Le micro, il ne marche pas. Ouais.
Il s'appelle Ibrahim.
Combien?
Yoram,
mais c'est un nom juif, Yoram.
Ouais.
Yoram, tu es très très beau.
Oui.
Ah oui, tu dis oui en plus. Et donc, on continue. Et donc, finalement, nous vivons dans notre histoire exactement ce que le maître du monde vit dans son histoire. Il n'a été accepté par aucun peuple au niveau des dirigeants. Il est au mieux confiné. Alors lui, ça fait vraiment lui, et lui, ça fait vraiment des millénaires qu'il est confiné. Lui, il est entouré par le corona. Il est confiné dans les églises, dans les temples ou dans les synagogues depuis des millénaires. Mais personne ne le laisse sortir dehors. Alors nous, les peuples qui sont censés le représenter, maintenant vous comprenez pourquoi nous sommes des peuples poursuivis, piétinés. Pourquoi nous sommes des peuples contre lesquels il y a tant de racisme ou d'antisémitisme? Pourquoi? Parce qu'il nous arrive dans notre histoire exactement ce qui arrive à Dieu. Nous lui ressemblons puisque nous sommes censés dévoiler sa royauté. Et comme sa royauté est complètement détruite pendant toute l'histoire humaine, les deux peuples qui étaient censés dévoiler la royauté de Dieu, qui sont les Africains et les Juifs, sont eux-mêmes complètement piétinés durant toute leur histoire. Et donc, vous imaginez le rôle absolument incroyable que nous avons au fur et à mesure que nous avançons vers la délivrance finale. Ça veut dire que, aussi incroyable que ce soit, la délivrance finale dépend de l'union entre les peuples africains et Israël. D'ailleurs, je lisais récemment un article, bon, qui parlait à un niveau complètement différent, mais très intéressant, un article dans un journal israélien qui expliquait toutes les relations aujourd'hui absolument incroyables qu'il y a entre les Israéliens et les Africains, dans le domaine économique, dans le domaine de l'agriculture, etc., etc. Et la conclusion de ce commentaire était que finalement, Israël est investi dans beaucoup d'endroits, mais il n'y a pas un pays où Israël investit autant qu'en Afrique. Alors lui, évidemment, il ne sait pas pourquoi. Mais moi, quand j'ai lu cet article-là, j'ai tout de suite compris pourquoi. Parce que c'est une allusion qui vient d'en haut, comme quoi, effectivement, il va falloir reconstruire une unité extraordinaire entre Israël et les Africains, parce que quand la dimension de la délivrance va commencer à se dévoiler, finalement, grâce à cette unité qui est en train de se construire aujourd'hui, malheureusement uniquement sur le plan matériel, mais cette unité est on pourrait dire une première étape qui, lorsque on va rentrer véritablement dans la phase de la délivrance, à ce moment-là, on va aussi passer à cette unité spirituelle, où finalement les peuples africains et Israël se rendront compte que chacun à sa manière, on a, nous, reçu la mission de dévoiler la royauté d'Hachem sur terre. C'est pas quelque chose de simple. Mais maintenant, je vais rajouter quelque chose d'un petit peu gênant, mais qui est très important. On a un autre point commun, les Africains et Israël. C'est que nous sommes des peuples qui, pour nous affaiblir et nous détruire de l'intérieur, sont constamment infiltrés par des forces étrangères qui prennent très souvent la direction de nos peuples pour nous affaiblir et nous détruire. J'ai pas besoin de rentrer dans les détails, mais je pense que vous devez tous, avec certainement de nombreuses exceptions, mais la grande majorité des dirigeants africains sont à la solde des grandes puissances financières et politiques blanches. Et donc finalement, les peuples africains aujourd'hui sont gouvernés par des gens qui ne cherchent pas vraiment le bonheur et le salut de leur peuple, mais qui sont bombardés d'argent et de soutien qui font que, bon, ben, ils se prosternent devant l'argent et finalement ne font que ce que les Occidentaux leur disent de faire pour continuer à profiter de toutes les ressources inimaginables qui se trouvent en Afrique et qui partent directement chez les Occidentaux et dont les Africains ne profitent pratiquement pas. Et ça, malheureusement, parce que les dirigeants africains, dans leur grande majorité, sont à la solde des puissances financières et politiques occidentales blanches. Malheureusement, nous avons le même problème en Israël. Il y a des commentaires vieux de millénaires qui nous disent, et je l'ai souvent expliqué dans mes cours, que quand Israël a quitté l'Égypte, Pharaon a introduit dans le peuple juif des Égyptiens à la solde de Pharaon qui avaient pour mission d'affaiblir et de détruire le peuple juif de l'intérieur, en se créant une identité juive, en se faisant passer pour des juifs. Et puis comme ils étaient aidés par Pharaon, ils avaient énormément d'argent, ils ont pu très très vite accéder à des postes, à des fonctions très importantes. Et puis c'est comme ça que ils ont affaibli, voire peut-être même mis en danger le peuple juif. Nos maîtres expliquent que la faute du veau d'or, qui est la première grande faute que, entre parenthèses, les juifs ont fait dans le désert, évidemment tout le monde explique que c'est les juifs, mais heureusement qu'on a nos maîtres qui, eux, expliquent véritablement la vraie Torah et qui nous disent que ce sont en vérité tous ces agents introduits, ces agents égyptiens qui se faisaient passer pour des juifs, qui, quand Moshe était sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah, ils en ont profité pour attirer une grande partie, c'est vrai, même de juifs, parce qu'ils avaient une approche démagogue inimaginable. Ils avaient été formés dans les écoles de Pharaon, comment détruire un peuple. Et c'est eux qui étaient à la tête de l'initiative de faire le veau d'or. C'était pas les juifs. C'est vrai que beaucoup de juifs les ont suivis, mais l'idée venait de ces agents infiltrés. Et jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les générations, le peuple juif a des agents infiltrés qui se font passer pour des juifs, et dont le but est de salir l'identité juive et de faire en sorte que les nations, quand ils voient ces soi-disant juifs faire ce qu'ils font, disent: mais c'est quoi? Mais c'est vrai, on a raison d'être antisémite, regardez les juifs comment ils se comportent, alors qu'en vérité ce ne sont pas des juifs. Je dirais que d'une certaine manière, puisque je parlais de vos dirigeants en tant que peuple africain, je dirais que chez nous aussi, avec toutes les nuances que je dois apporter en Israël, tous les gouvernants israéliens depuis la renaissance de l'État d'Israël fonctionnent selon le mode occidental et ne fonctionnent absolument pas selon le mode toraïque. Ils acceptent la Torah, mais à la synagogue, comme en France on accepte le christianisme, mais à l'église. Et donc il y a une séparation totale entre l'âme et le corps, entre la spiritualité et la matérialité. Donc, tous nos dirigeants en Israël sont, on pourrait dire, d'inspiration occidentale, donc d'une certaine manière d'origine chrétienne, et la démocratie, et donc finalement dirigent un peuple qui normalement devrait être dirigé par des dirigeants complètement différents. Mais bon, comme on est encore que, on pourrait dire, sur le chemin de la délivrance, et on est encore loin de la délivrance, à vision humaine en tous les cas, c'est la raison pour laquelle on est aujourd'hui, notre peuple aujourd'hui, comme vous les Africains, vous êtes entre les mains de dirigeants noirs, mais qui sont à la solde des blancs. Nous, on est en tant que juifs, dirigés par des dirigeants qui sont juifs, mais qui sont aussi à la solde finalement du monde occidental, la démocratie, le monde occidental avec toutes ses idées et toutes ses valeurs. Et donc, ce qui fait que, vous voyez que combien et combien et combien on a de points communs, il nous arrive la même chose, mais j'irai beaucoup plus loin encore, et après je vais repasser au positif. Je pense que vous devez savoir que combien d'expériences ont été faites sur les peuples africains, combien de vaccins ont été testés chez les Africains. Combien, et j'irai beaucoup plus loin, et peut-être vous le savez aussi, vous savez combien de rivières et combien de fleuves ont été empoisonnés en Afrique pour que quand les Africains buvaient de ces eaux-là, ils soient affaiblis, ils soient malades, et c'est pour ça qu'il y a eu des épidémies inimaginables en Afrique, c'est pour ça que des millions d'Africains sont morts, et ne parlons pas des guerres civiles entre les Tutsis et les Hutus, qui étaient complètement manœuvrées, organisées par les pouvoirs occidentaux. Et donc les Occidentaux font tout pour affaiblir les peuples africains. Soit ils empoisonnent leur nourriture, soit ils empoisonnent leurs rivières, soit ils empoisonnent leurs fleuves, soit ils créent des guerres civiles. Tout le monde sait aujourd'hui que la guerre entre les Tutsis et les Hutus était une guerre provoquée par les Occidentaux. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient que ceux qui gagnent soient après à la solde des Occidentaux. Et c'est comme ça que ça se passe tout le temps. Donc vous voyez qu'on a des points communs énormes au niveau de nos gouvernants, au niveau des infiltrations à l'intérieur de nos peuples. Et tout ça pourquoi? Parce que pourquoi le monde s'acharne contre les Noirs et contre les Juifs? Parce que j'imagine que dans le subconscient, les peuples ont compris que la délivrance finale passera précisément par nous. Et c'est pour ça qu'ils font tout pour nous empêcher justement d'arriver à notre mission. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux dire que, sans exagérer, 70% des Juifs ont complètement oublié quelle est leur mission, et je pense que 70%, si pas plus, des Africains ont complètement oublié quelle est leur mission aussi. Ça veut dire qu'on reste finalement un groupe très très minuscule de véritables Juifs ou de véritables Africains qui comprennent véritablement quelle est leur mission. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile du tout, parce que comme la grande, grande, grande majorité a complètement oublié ce qu'était la mission de nos peuples, automatiquement, ils sont à la solde de tous les pouvoirs occidentaux, ou tous les pouvoirs, pires encore, qui n'ont qu'une seule et unique volonté d'empêcher le dévoilement de la royauté d'Hachem sur terre. Alors pour terminer, avant vos questions, mes amis, quelle est notre mission? Notre mission, j'avoue très sincèrement qu'elle n'est pas facile, et je dirais très, très sincèrement que je ne peux pas véritablement donner des réponses satisfaisantes, parce que ça nous dépasse. Ça a l'air tellement, tellement, tellement compliqué. Comment on va arriver à se réveiller? Comment les peuples africains vont retrouver leur véritable liberté? Comment ils vont retrouver leur véritable identité, comment ils vont se libérer de toute l'oppression occidentale qui ne fait qu'exploiter leur richesse et qui fait tout encore une fois, pour affaiblir les peuples africains de manière à ce qu'ils ne se révoltent pas et ne reprennent pas leur identité véritable, exactement ce qui se passe d'une certaine manière pour le peuple juif aussi, avec sans doute pas mal de nuances, mais c'est globalement la même chose. Et comment qu'on va s'en sortir? Alors, la seule réponse que je peux donner aujourd'hui, et je dis clairement sans avoir honte que je n'ai de loin pas toutes les réponses, je pense que dans la phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est un retour très 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 fort à finalement à ce qui sera un jour la spiritualité de l'humanité tout entière, la Torah. Je ne dirais pas la Torah d'Israël comme je l'explique au début de ce cours, mais je dis à la Torah. La Torah nous renforce. La Torah nous éclaire. La Torah nous donne finalement la possibilité de voir la réalité avec des yeux que nous ne pourrons avoir nulle part ailleurs. La Torah nous permet, comme disent nos maîtres, que le monde a été créé à partir de la Torah. C'est une métaphore, bien sûr, il ne faut pas le prendre à la lettre. Qu'est-ce qu'il y a le rapport entre le monde et la Torah? Mais quand nos maîtres nous disent que le monde a été créé à partir de la Torah, dit d'une manière la plus simple possible, ça veut dire que la Torah concerne l'humanité tout entière, le monde tout entier. Ça veut dire que chaque homme, chaque femme, s'il veut se renforcer, s'il veut une véritable lumière qui va faire de lui un véritable combattant dans ce monde, dans le but d'amener le monde à sa réparation et d'amener le monde à la délivrance, il doit s'attacher de toutes ses forces à la Torah. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Encore une fois, chaque peuple, selon son tempérament, chaque peuple selon tout ce qui le caractérise en tant que peuple spécifique, mais malgré tout, ça reste la même Torah, avec des facettes différentes. Comme dans un livre, il y a 10 chapitres, 15 chapitres, mais c'est 15 chapitres d'un même livre. Et nous, c'est pareil, on a 70 facettes d'une même Torah. Et chacun va être attiré plus par la facette qui lui correspond, mais ça reste la Torah pour toute l'humanité. Et donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que nous commençons à faire, et peut-être c'est le travail de notre génération, après peut-être viendra une génération qui, elle, aura mieux compris que nous ce qu'il faut concrètement faire sur le terrain. Mais comme nous sommes au début aujourd'hui de la diffusion de la Torah dans le monde, je pense qu'aujourd'hui nous devons nous concentrer sur ce retour à la Torah, ce retour finalement à la sagesse du maître du monde. Et quand il y aura de plus en plus et de plus en plus d'hommes et de femmes partout dans le monde qui comprendront et qui intégreront cette spiritualité qui est une spiritualité, on pourrait dire, qui ne déconnecte pas l'homme de ce monde, mais qui au contraire le renforce dans ce monde, je pense que à ce moment-là, petit à petit, va se lever une armée de véritables croyants, d'hommes et de femmes de vérité, qui peut-être trouveront et certainement trouveront les solutions pour avancer plus loin encore et finalement être la matrice de la délivrance finale. Encore une fois, pour conclure, à mon niveau, ce travail essentiel d'amener la délivrance finale est entre les mains des Noirs et des Juifs, des peuples africains et du peuple d'Israël, et c'est ensemble, en association ensemble, que nous arriverons à amener la délivrance finale. Et la preuve la plus grande, c'est que notre histoire se ressemble dans tellement, tellement, tellement de points par rapport à tout ce que nous avons traversé, tout ce que nous avons souffert. C'est la preuve la plus grande comme quoi nous appartenons à la même mission, dévoiler la royauté d'Hachem sur terre. Voilà mes amis, est-ce qu'il y a une question ou deux? Je ne pourrais pas durer trop longtemps aujourd'hui. Mais si, encore 10 minutes, 10 bonnes minutes s'il y a des questions.
Oui, Rav.
Qui?
Eric.
Eric, je ne vous vois pas.
Il est là.
Ah.
Eric et
Karine. Eric, je vois un Paul. Ah, Eric, pardon, excusez-moi, Eric.
Donc, en fait, ma question, c'est est-ce que c'est en trouvant notre véritable mission que on retrouve notre identité?
Oui, ce n'est que ça. Et notre mission, nous ne pourrons la retrouver qu'à travers la Torah. Parce que la Torah est capable de s'adresser à chaque homme et à chaque peuple selon la mission qui lui correspond. Comprenez? Oui. Et donc, je vais donner un exemple simple. Deux hommes complètement différents lisent un même texte de Torah. Même si c'est le même texte, chacun va le ressentir et le comprendre d'une manière différente. Parce que comme il y a 70 facettes, chacun va capter la facette qui correspond à sa nature. Vous comprenez? Et on a énormément d'exemples parmi nos maîtres, que deux maîtres, par exemple, lisaient le même texte ou allaient au même cours, entendaient le même enseignement de leur maître. Et quand après ils sortaient et qu'ils se posaient la question « Alors qu'est-ce que tu as entendu ?» Chacun donnait une version qui est à l'extrême opposé de l'autre. Alors ils se disaient « Attends, on a été au même cours, on était assis sur le même banc, on a entendu le même maître. » Qu'est-ce qu'on comprend de là? C'est à pleurer tellement c'est authentique. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'uniformité dans la vérité. Chacun capte la facette qui lui correspond. C'est ça la vérité. Chacun capte la facette qui lui correspond. Donc, Je donne un enseignement, vous allez le comprendre selon votre caractère et votre sensibilité. Un autre va entendre les mêmes mots, il va le comprendre selon son caractère et sa sensibilité. Et c'est comme ça que les identités et les missions se reconstruisent. Parce que chacun va capter le message selon, en vérité, la mission qui lui correspond, selon la nature profonde dont le maître du monde l'a doté. Vous comprenez? Et c'est pour ça que je pense, comme je l'ai dit, qu'aujourd'hui, il est très 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 important de consacrer autant que possible des moments à l'étude, à recevoir des enseignements de Torah, parce que c'est ce qui va nous permettre de revenir à notre identité véritable. Et plus il y aura d'hommes et de femmes qui reviennent à leur identité, plus on sera cette armée qui pourra un jour faire face à toute la corruption et à tout le mal qu'il y a dans ce monde. Voilà. Et je pense que la première victoire des peuples africains sera de rejeter tous ces dominateurs étrangers qui ne font que vous voler vos ressources et vous voler votre terre et vous voler votre identité, et que l'Afrique redevienne la propriété des Africains, avec de vrais dirigeants qui ne sont plus à la solde du monde occidental. Voilà. Oui, Clémence. Ouvrez votre micro, Clémence. Vous pouvez, Karine, ouvrir son micro? Voilà. Oui, Clémence.
La question, c'est à propos de la Torah. Il y a les lois, il y a les enseignements, il y a les fêtes. Et pour nous, les Bléadam, comment on va pratiquer les fêtes à la différence des Juifs pour éviter le mélange, pour éviter la confusion?
Vous posez.
Voler l'identité juive.
Vous posez une question qui est d'une importance extrême. J'ai récemment dans un cours, si je ne me trompe pas, c'était aussi avec vous, je ne sais plus, je crois, où j'ai expliqué qu'il y a certaines lois dans la Torah qui concernent aujourd'hui l'humanité tout entière. Je parlais des lois de la cacheroute, par exemple, les animaux permis, les animaux interdits. Alors évidemment, pour un non-juif, il va dire, mais il est complètement fou ce rabbin, et si j'ai envie de manger du porc, je mange du porc, je veux dire, je suis pas juif, moi. Mais petit à petit, je pense que de plus en plus d'hommes et de femmes comprendront qu'une grande partie de la Torah concerne en vérité tous les humains, puisque c'est ce que nos maîtres nous disent. Quand Dieu a proposé la Torah à l'humanité tout entière, c'est évident qu'il y avait forcément des points communs entre toutes les facettes de la Torah. Et donc, en ce qui concerne par exemple la nourriture, il faut savoir que c'est un point extrêmement important. Il y a des animaux qui font rentrer dans notre corps des énergies négatives, il y a des animaux qui font rentrer dans notre corps des énergies positives. Et je vous le dis avec la plus grande sincérité, je sais que ce n'est pas facile quand on s'est habitué pendant 30 ans, 40 ans ou plus à manger ce qu'on veut et comme on le veut. Mais je vous le dis, mes amis, même si vous n'êtes pas juif, sachez que la cacheroute vous concerne à 100%. À 100%. Et donc, il n'y a pas que ça. Il y a quantité d'autres lois qui, en vérité, concernent aussi les nations. Et excusez-moi de rentrer dans les détails, mais par exemple, dans un couple, pendant que la femme est à sa période, c'est absolument interdit qu'un homme est une relation avec elle. Alors c'est vrai que c'est une loi juive, mais en vérité elle concerne même les non-juifs. Seulement les non-juifs n'ont pas accepté, alors ils disent « qu'est-ce que moi j'en ai à faire, moi ça concerne les juifs, ça ne me concerne pas ». Non, c'est un problème de relation entre deux êtres, et ça n'a rien à voir avec le fait si je suis juif ou non. Dans une période de règles, l'homme doit s'abstenir, parce que c'est pas le moment où la relation peut être une véritable relation. Pour différentes raisons que je ne peux pas expliquer maintenant, mais en tous les cas, non. Alors, c'est pas grave. 12 jours, 13 jours par mois, tu t'abstiens. Et quoi? Au contraire, quand tu retrouves ton épouse après, tu la retrouves comme si c'était une jeune mariée. Parce que justement, tu as pu pendant un certain temps, t'abstenir. Et donc, ça aussi, c'est une loi qui concerne toutes les nations. La circoncision, par exemple. Bien sûr qu'elle concerne l'humanité tout entière. Je peux vous assurer qu'au moment de la délivrance finale, tous les hommes vont se circoncire. Tous, sans exception. Parce que c'est aussi quelque chose d'extrêmement important pour le corps humain et pour la dimension masculine, la circoncision. Je ne peux pas expliquer maintenant pourquoi, mais je donne des exemples. Alors maintenant, il y a effectivement, juste Clémence, des aspects de la Torah d'Israël qui, évidemment, ne peuvent pas concerner les nations, mais qui un jour seront remplacés par d'autres choses. Par exemple, la fête de Pessah.
Oui.
Vous n'êtes pas sorti d'Égypte. Donc, vous n'êtes pas sorti d'Égypte. Donc, ça n'a aucun sens que vous faisiez Pessah, puisque vous n'êtes pas sorti d'Égypte. La fête de Soukhot, ça n'a pas de sens que vous viviez dans une cabane pendant une semaine, parce que vous n'avez pas vécu pendant 40 ans dans le désert. C'est en souvenir des 40 ans dans le désert. Mais croyez-moi, Clémence, lorsque le Mashiach dévoilera à tous les peuples la Torah qui les concerne, vous aurez énormément de fêtes, vous aurez énormément de jours saints, etc., qui correspondra à ce que vous êtes. Vous comprenez? Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont complètement voilées. Je n'ai pas de solution, puisque cette Torah qui vous concerne n'a jamais été dévoilée. Alors aujourd'hui, ce que moi je vous dis aujourd'hui, mais ça changera avec le temps, vous devez vous consacrer. Peut-être, vous savez quoi? Un jour, je vais peut-être consacrer un cours sur l'ensemble des lois qui concernent toutes les nations. Voilà. Je vais le faire. C'est très important. Mais aujourd'hui, même en tant que Ben Adam, vous devez vous concentrer sur les choses qui touchent la matérialité de ce monde, comme qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on ne mange pas, la relation dans le couple, si la femme a sa période ou elle n'a pas sa période. Et il y a encore d'autres choses que je citerai dans un autre cours, où je ferai un point peut-être global sur ces notions-là. Maintenant, évidemment, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire les fêtes juives parce qu'elles correspondent à l'histoire juive. Et donc, ça ne vous concerne pas. Mais sachez qu'il y a tellement d'autres choses qui vous concernent dans la Torah. Ne serait-ce que tous les enseignements qu'on transmet. Ces choses-là vous construisent aussi sur le plan spirituel. D'entendre des enseignements qui, finalement, petit à petit, font rentrer en vous une lumière qui vous construit sur le plan moral et spirituel. Donc, c'est déjà énorme. Et puis, on souhaite tous que le Mashiach vienne le plus vite possible pour qu'il puisse donner aux 70 peuples tous les aspects toraïques qui les concernent. Et les Africains auront des fêtes particulières que sans doute les Asiatiques n'auront pas. Les Asiatiques auront des fêtes particulières que les Africains n'auront pas, et ainsi de suite. Mais tout le monde va redécouvrir la facette de la Torah qui lui correspond pour que toute sa vie tourne autour de cette pratique qui finalement correspondra justement à la mission et à l'identité et au caractère de chaque peuple. Et il faut être patient. Oui, pardon Clémence.
J'ai une autre question. J'ai entendu votre cours sur le Kilgoulim. Le Kilgoulim.
Oui.
Pour les Bnei Adam, ça concerne les Bnei Adam aussi, les Gilgoulim.
Oui, oui. Les Gilgoulim, c'est-à-dire en français, j'aime pas la traduction, mais on n'a pas le choix, les réincarnations de l'âme, concerne absolument même les Bnei Adam, et nos maîtres vont plus loin que ça. Nos maîtres nous disent et donnent des exemples de nombreux Bnei Adam qui après sont revenus et sont nés dans un corps juif. Ça veut dire que c'était des Bnei Adam qui, en tant que Ben Adam, étaient des gens tellement extraordinaires, qui ont fait tellement de bien dans leur vie, que quand ils sont revenus une autre fois, ils sont revenus juifs et le sont restés jusqu'à la fin de leur vie. Enfin, jusque même dans les autres Gilgoul. Ils ne reviendront plus jamais en arrière. Et donc, au niveau des Gilgoulim, c'est sûr et certain que ça concerne les Bnei Adam aussi. Sûr et certain. Sûr et certain. Voilà, mes amis, y a-t-il encore... Terence, oui, ouvrez votre micro. Terence. Le micro, voilà, c'est bon, allez-y.
Alors, j'ai une question en fonction de l'unité entre Israël et l'Afrique. Je voulais juste savoir, en fait, est-ce que vous pensez que cette unité peut se déclencher en fonction des dirigeants israéliens et des dirigeants africains ?
Pas dans la situation actuelle. Je ne suis pas très optimiste parce que, encore une fois, les dirigeants israéliens font partie du monde occidental, et donc le monde occidental fait tout d'une certaine manière, consciemment ou non, pour exploiter l'Afrique. Les dirigeants africains, comme je l'ai expliqué, cher ami, dans leur grande majorité sont à la solde du monde occidental, ce qui veut dire que pour l'instant, que ce soit chez nous ou chez les autres, le monde entier est dirigé par des dirigeants qui sont à des années-lumière d'être de vrais dirigeants. C'est pour ça que nous devons avancer vers la délivrance finale, où à ce moment-là, les peuples mériteront d'avoir à leur tête des dirigeants dont la seule et unique préoccupation, c'est le bien véritable de leur nation, de leur peuple. Et à ce moment-là, le rapprochement entre Israël et les nations sera très, entre Israël et l'Afrique sera extrêmement fort, extrêmement puissant, comme on ne peut même pas l'imaginer. Comme je dis souvent, n'oublions pas que le premier couple du premier libérateur d'Israël qui était Moshe, sa première épouse était une Africaine, comme nous l'enseignent nos maîtres. C'est une allusion inimaginable au fait que finalement ce lien incroyable entre Israël et l'Afrique. Et donc, le monde va évoluer, on va encore traverser des choses qui ne sont pas faciles, mais je pense que on verra tôt ou tard la fin de toute cette corruption qui domine le monde, et petit à petit de véritables et de vrais dirigeants vont être à la tête des nations, et à ce moment-là commencera à se construire l'unité dans le monde entier, et surtout l'unité entre Israël et l'Afrique.
J'ai une deuxième question rare. Est-ce que vous pensez, le travail que vous faites est très grand, est-ce que vous pensez que d'autres rafs et d'autres rabbins auront cette optique de propager la Torah physiquement en se déplaçant en Afrique pour apporter cette lumière?
Je pense. D'abord, sachez qu'il y avait, il y a de nombreuses années, un maître très 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 connu qui était un francophone d'origine, qui s'appelle le Rav Ashkenazi, qui a été très très souvent en Afrique, très souvent en Afrique. Il a été peut-être le premier Rav, qui était un géant, à se déplacer en Afrique. Lui aussi, vous voyez, c'est incroyable parce qu'en parlant, vous me rappelez qu'encore une preuve comme quoi un grand maître avait compris qu'il devait y avoir un lien entre l'Afrique et Israël. Lui vivait en Israël, mais avait été souvent en Afrique pour enseigner. Il rencontrait là-bas des rois et des dirigeants et il enseignait au peuple. Il n'est pas le seul, bien sûr. En ce qui me concerne, s'il n'y avait pas eu le corona, je serais déjà venu plusieurs fois en Afrique. J'étais sur le point de venir quand a explosé le corona. J'étais en train de préparer effectivement un voyage en Afrique. Alors, j'espère qu'un jour ça sera possible. Et en tous les cas, oui, c'est très 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 important qu'il y ait effectivement des déplacements de Rabbanim en Afrique pour enseigner, pour être en contact avec vous, et c'est quelque chose qui est très 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 important. Et je vous dis encore une fois, ce Rav Ashkenazi, qui est décédé il y a une trentaine d'années, si je me trompe pas, a été très très souvent en Afrique. Personne à cette époque-là vraiment ne comprenait, mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Et apparemment, c'était une sorte de petit prophète qui avait compris avant tout le monde le lien qui devait se créer entre Israël et l'Afrique. Voilà.
Une troisième question, une dernière. Est-ce que vous pensez que le troisième temple qui est en projet en Israël va complètement s'accomplir?
Sûr et certain, c'est le fondement même de notre foi en tant que juif. La construction du troisième temple, qui sera, comme disent nos prophètes, ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Ça veut dire la différence entre le troisième et le deuxième, et les deux premiers. Les deux premiers étaient beaucoup plus, on pourrait dire, des temples juifs, mais bien qu'il y avait des étrangers qui venaient, quoi qu'il en soit, mais très peu, mais le troisième temple sera la maison de l'humanité tout entière. Ça veut dire que Jérusalem deviendra la capitale spirituelle de l'humanité tout entière. Et le troisième temple sera autant pour les nations que pour Israël. Ça veut dire que ça sera vraiment la maison de prière, la maison de connexion avec le maître du monde pour toutes les nations, absolument. Okay, Eric, merci beaucoup Terence.
En fait, moi, ce n'est pas vraiment une question, c'est juste un renseignement. Sachant que la majorité des peuples africains ne lisent pas l'hébreu, comment ils peuvent se procurer une Torah fidèle au judaïsme authentique, comme vous le dites souvent?
Écoutez, je pense qu'aujourd'hui c'est relativement facile, en ce sens que, par exemple, pour tous les peuples francophones, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est sur Amazon ou peu importe, ça je ne suis pas spécialisé, mais aujourd'hui il y a des traductions de la Torah d'Israël qui sont très très bonnes, avec des commentaires très bien traduits aussi. Et aujourd'hui, c'est pas vraiment, c'est pas. Peut-être qu'on en parlera sur notre groupe ou entre nous et après vous verrez. Mais il faut que je fasse mes recherches parce que bon, moi, je lis qu'en hébreu, donc j'ai pas de livre de traduction française chez moi. Mais je vais faire des recherches et je vous dirai. Par contre, ce que je suis certain, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir de très bonnes traductions, autant de la Torah elle-même que des commentaires. Donc, et à combien plus forte raison en anglais? Alors en anglais, pour ceux qui comprennent l'anglais, alors là aujourd'hui c'est fabuleux. Toute la Torah et tous les commentaires pratiquement des maîtres d'Israël ont été traduits en anglais. Je parle surtout en anglais américain. Mais aujourd'hui, il y a eu un travail démentiel qui a été fait par les juifs américains depuis des années. Et pratiquement toute la Torah écrite et orale est traduite en anglais aujourd'hui. Mais en français, il y a déjà pas mal de très très grandes choses qui ont été faites.
Vous pose la question parce que j'ai été quand même pas mal déçu par des traductions qui n'ont pas été fidèles. Et donc, si vous pouviez au moins nous conseiller.
Je vais faire cette recherche. Vous me le rappelez sur WhatsApp et je vais faire cette recherche. Et il faut
D'accord.
savoir que toutes les traductions consistoriales anciennes sont nulles et complètement nulles. Donc, je parle moi de traductions qui ont été faites ces toutes dernières années, 4, 5 ans, etc. Mais les vieilles traductions de la Torah faites par le consistoire d'il y a plusieurs décennies sont de très, 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 très mauvaises traductions. Très mauvaises traductions. Voilà, mes amis, avec votre permission, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais m'arrêter. Et voilà, on reprend très bientôt. Vous savez, Eric et Karine, en ce qui me concerne, si c'est possible, ça peut être toutes les 3 semaines même. C'est pas forcément besoin d'attendre un mois.
D'accord.
Et je pense que ces cours sont très 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 importants, même s'il n'y a pas tellement tellement de monde, c'est pas grave. Après, je le mets sur le site. Et c'est des milliers de personnes qui le voient. Et comme je dis toujours, aujourd'hui, c'est pas. Bon, c'est sûr que si on était un peu plus, mais on y arrivera, vous inquiétez pas. Petit à petit, on y arrivera. Vous savez,
Merci.
comme disent nos maîtres, kol atchalot kashot. D'ailleurs, apprenez l'hébreu, mettez-vous à l'hébreu. Kol atchalot kashot, ça veut dire tous les débuts sont difficiles.
Apprenez-nous.
Voilà, exactement. Bon, on va faire des cours d'hébreu. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
D'accord.
Pourquoi nos maîtres disent tous les débuts sont difficiles? Pour nous faire comprendre qu'un vrai début, c'est toujours dur.
D'accord.
Parce que si c'est facile dès le départ, ça veut dire que ça va vite se casser la figure. Donc, un vrai commencement, c'est un petit peu dur. Mais c'est pas grave. On continue. De toute façon, même si on est ce qu'on est, quoi qu'il en soit, après, quand ça monte sur le site, c'est des milliers qui verront ce cours-là. Et petit à petit, il y aura de plus en plus de monde qui viendra à ce rendez-vous-là. Voilà, mes amis, écoutez, merci beaucoup. Je remercie Eric et Karine. Je vous remercie à vous tous d'avoir été présents à cette intervention. Et on se retrouve très, très, très prochainement, peut-être dans 3 semaines, un mois au maximum, mais pas plus. Et on continue ensemble, on se renforce ensemble, on avance ensemble. Et on va tout faire pour être la matrice de la délivrance finale avec l'aide du Maître du Monde. Merci, une
Merci
très
à
très
vous.
bonne fin de soirée et je vous porte très très fort dans mon cœur. Et encore une fois, on va faire de grandes choses ensemble. À tous et à toutes, à très très bientôt.